Bienvenue à tous en cet heureux jour qui s'illumine pour vous d'espérance et de paix. Je vous invite à vous lever déjà pour chanter debout les deux premières strophes du 32-28 que vous trouvez dans votre recueil, page 380. Page 380, chant 32-28. Peut-être légèrement introduit par Olivier. À l'aide de votre feuille de culte, nous allons dire ensemble la louange, qui est un des textes du jour, tiré du prophète Ésaïe. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Amen. Nous continuons à chanter un autre chant, le 32-03. Nous y chantons les trois strophes.
Thank you.
Avant de prier ensemble une prière de conversion, un temps de méditation, je vais prendre le temps de laisser poser mon regard sur les choses de tous les jours pour les voir autrement, les choses que chaque matin je croise sans les voir, toutes les choses familières que je côtoie en longueur de jours, de mois, d'années. Je vais prendre le temps de voir l'étrangeté des arbres, ceux de mon jardin, ceux du parc voisin, qui bruissent au crépuscule. Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les êtres que j'aime et de regarder autrement les miens, celles et ceux qui me sont le plus proches et que parfois je ne vois plus, que je n'entends même plus tant le souci de mes affaires, de mon travail parasite, mon cœur et mon corps. Je vais prendre le temps de les découvrir, de me laisser surprendre encore et toujours par ce que j'aime. Je vais prendre le temps de te rencontrer aussi, mon Dieu, au-delà des mots, des formules, des habitudes, des rites. Oui, je vais aller à ta rencontre comme au désert et tu me surprendras, mon Dieu. Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer autrement. Et maintenant, ensemble, je vous prie de lire à haute voix cette prière de conversion qui est sur votre feuille de culte. En devenant humbles, nous nous penchons vers Dieu. Celui qui nous connaît, connaît aussi nos espoirs et nos faiblesses, nos possibilités et nos failles. Nous pouvons maintenant recevoir ensemble l'annonce du pardon de Dieu. Au soir de Noël, Jésus est venu nous rejoindre dans une maison ouverte aux quatre vents pour que chacun le découvre et le rencontre. On dit qu'au matin de Pâques, il fera rayonner de joie le monde et nous donnera à chacun la vie éternelle. Celui-ci nous dira et nous dit maintenant, « Va sans crainte, tu es pardonné de tes hésitations, de tes doutes. Va, je demeure avec toi, dès maintenant et pour toujours. » Et Amen. Entendre l'expression de la volonté de Dieu. Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, et si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. C'est un chant qui ne figure pas sur votre feuille de culte, mais qui néanmoins se trouve page 350. C'est le 3201 et nous y chantons les strophes numéro 1 et 4. Strophes 1 et 4. rasseoir. Je vous invite à la prière. Que l'Esprit de Dieu éclaire les paroles que nous allons entendre ce matin, qu'elles deviennent nourriture pour nos vies et partage pour nos proches. Amen. Nous lisons d'abord dans la lettre aux Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. La deuxième lecture est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Au début de la Bible, dans un livre qui est le livre de la Genèse, au commencement du livre de la Genèse, la terre était informe et vide. Et la parole de Dieu ne s'exprime dans ce livre qu'à partir du verset 3, « Que la lumière soit », voici cette parole. Au commencement du livre de Jean, qui vient d'être lu par Nicolas, ce début du livre de Jean qui est une nouvelle Genèse, la parole, en revanche, est réellement au commencement. Au commencement était la parole. On se risquerait à dire que le texte de Jean est plus cohérent, puisqu'un narrateur dans le livre de la Genèse parle, raconte, avant que Dieu lui-même ne parle et ne commence à créer. Dans notre récit du jour, la parole est d'emblée désignée comme la source de toute chose. Dans une stupéfiante astuce littéraire pour un écrivain qui commence son évangile en offrant comme première parole « Au commencement était la parole ». C'est un magnifique effet formel, mais au-delà de l'effet formel, que finalement seuls les amateurs peuvent apprécier ou déceler, pas ceux qui regardent les textes comme ils boivent plus sec des alcools précieux, évidemment. Il n'y a chez Jean, avant la prise de parole, avant ce « au commencement était la parole », il n'y a aucun néant, aucun mutisme, aucun silence, aucun vide, aucun planage au-dessus des eaux, comme fait l'esprit dans le livre de la Genèse. Aucun tohu-bohu. Et surtout, aucun narrateur omniscient qui prétend parler d'un moment où rien n'a encore commencé à parler. Le terme grec « logos », qui est traduit ici par « parole », est encore plus large que cette traduction habituelle. Il désigne aussi, vous le savez, l'ordre, la raison, désigne aussi la relation dans l'Antiquité. Et finalement, il n'y a aucun mot français pour le traduire correctement, comme ce qui est souvent traduit par le mot amour. Dans le Nouveau Testament aussi, il n'y a pas un mot français qui marche. Alors, pensons simplement à la logique, en s'éloignant un peu de la logique mathématique, sans l'oublier totalement. On va plus loin, on se demande si notre perception d'une logique interne qui pulse dans ce monde, a priori confus, n'est peut-être pas une illusion, ne serait peut-être pas une illusion. Eh bien ça, c'est le logos. Au commencement, dit Jean, était ce logos, finalement, on va le laisser comme ça, sans lequel aucune vie ne se produirait, ne se déroulerait. Aucun évangile de Jean ne pourrait s'écrire, aucune astuce littéraire pour initier ne pourrait se faire. Aucun évangile ne serait lu. Et puis, finalement, seul l'évangile de Jean présente les choses ainsi, à savoir et cette parole a eu beaucoup de succès par la suite, à savoir que ce logos initial, cette parole initiale, cet ordre initial, cette raison initiale et créatrice de vie, il est le seul à dire que ça a pu devenir chair en Jésus-Christ. Pour les trois autres évangiles, Jésus reste, malgré sa filiation divine et malgré sa messianité reconnue, il reste, dans le sens sublime du terme, un porte-parole. Pour Jean, il est la parole incarnée. C'est une évolution théologique très importante qui fait de ce qu'on appelle le prologue de Jean un des monuments de la théologie chrétienne, puisque ce fameux logos prend place désormais à côté de Dieu. Il crée le monde, il contient la vie et produit la lumière. Un monument, certes, mais cependant très peu visité. Sans doute, c'est cela, Noël, une grande ferveur, mais au bout du compte, il n'y a que quelques astronomes, éventuellement deux ou trois animaux. Il y a plus de centons de Provence qui s'intéressent à la figurine de Jésus que de chrétiens qui s'intéressent à Noël, au logos de Jean. Bienvenue dans cette crèche. Mais aussi, on peut les comprendre, les adeptes d'autre chose que ce logos à Noël, évidemment. On peut vraiment les comprendre. Car cela, franchement, est assez théorique, et ça ne devrait pas. Car si nous sommes assemblés en ce matin de Noël, c'est parce qu'une parole nous a appelés à nous assembler, y compris Olivier, qui est là, et que je remercie, y compris moi-même. Si un sourire est apparu sur votre visage ce matin, c'est parce que quelqu'un a pris peut-être la peine de vous dire bonjour, voire de vous appeler par votre nom. Si notre liturgie est ordonnée, malgré quelques couacs de nomination de cantique, c'est qu'une intervention du Logos l'a façonné. Si Olivier possède la méthode de son art, c'est que sa logique et la logique harmonique se sont rencontrées dans son cerveau et dans ses mains. Si ma prédication a un sens, c'est qu'elle prend la suite, modestement évidemment, et depuis la nuit des temps, d'une parole, d'une logique, d'une sagesse et d'un ordre logique qui a créé le monde. Si un jour vous vous êtes marié ou fiancé ou que sais-je, c'est par le bénéfice d'une parole, d'une volonté exprimée, qui a créé votre couple à partir de votre logique de consentement. Et de même, si vous avez interrompu ce mariage, c'est par le truchement d'une parole. Alors, la parole de Dieu n'a pas besoin de son ou de vocalité. Il ne faut pas la résumer à la langue, au langage. Elle peut faire et créer sans littéralement parler. Qui aurait pu entendre le Dieu de la Genèse crier « Que la lumière soit » ? Dieu a-t-il ouvert la bouche pour émettre un son dans l'infini du non-créé ? La parole de Dieu se produit aussi dans le silence apparent. La caractéristique de cette parole est que, bien étrangement indicible, nul ne peut la décrire, et pourtant elle parle. Aussi, cette parole inspire des actes qui disent, par exemple, « non », sans même employer le mot. Mais pour tout un peuple, en effet, ce logos créateur devenait non seulement trop théorique, mais de plus en plus finalement inaudible à force d'abstraction. Alors, dit Jean, en son verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Un joli verset, et encore plus beau, quand on le traduit littéralement, la parole a été faite chair et elle a planté sa tente parmi nous. Et là, cette parole du commencement, celle qui a tout créé, s'est mise à parler comme toi et moi pouvons parler ou nous parler. Elle a non seulement parlé, mais elle a dit ce qu'il fallait dire. Elle a annoncé ce qui se passe et ce qui va se passer. Elle a précisé des points obscurs de la Torah. Elle a éclairé des scènes de la vie quotidienne. Elle a dénoncé des hypocrites, évidemment. Et elle a béni des femmes perdues. Et même, elle a maudit un temple. Elle a relevé, elle a soigné. Elle a désigné l'important. Jésus-Christ. Jésus le Christ. Jésus appelé Christ. Dont nous fêtons la naissance aujourd'hui est devenu pour nous la parole qu'on peut comprendre. Non qu'elle soit facile à comprendre, mais au moins elle ne se réfugie plus dans l'insondable. En devenant chair, dit Jean, cette parole toute puissante s'est mise volontairement à désormais avoir besoin d'un consentement pour l'écouter, pour l'entendre. S'est mise volontairement à avoir besoin même d'une réponse. De parole unidirectionnelle, elle se plaît désormais dans l'interlocution. Jésus précise donc bien que cette parole lumière, parce que les mots valsent dans ce texte, qui a créé ce monde, eh bien ce monde évidemment ne l'a pas reconnu. Paradoxe tragique, en effet, que de ne pas accepter ce par quoi nous avons été faits, que les siens, ce Christ, ne l'ont pas davantage reconnu. Au point que pour beaucoup, finalement, cette parole s'en est retournée dans son ciel pour ne plus jamais revenir dans ce monde humain qui préfère l'illusion à la vérité, les ténèbres à la lumière, pour prendre les catégories du texte de notre jour. Retourner au ciel peut-être alors que des chrétiens supplient leur Dieu depuis 2 millénaires à travers la prière qu'ils disent ensemble chaque dimanche de mettre ce logos sur la terre comme il l'est déjà au ciel, sur la terre comme au ciel. Pour certains, pourtant, grâce à elle, à cette parole, certains se sont reconnus comme des enfants de Dieu, dit ce texte. Non pas qu'ils ne l'étaient pas avant, mais il fallait qu'ils soient traversés par la parole pour enfin dissiper les ténèbres d'un doute qui ne portait plus aucun fruit. Et maintenant, bien voilà, ils sont le fruit. Noël, c'est juste un moment où l'on est appelé à se poser la question « Qu'est-ce que je vais faire maintenant de mon existence avec cette découverte révélée par cette parole plantée dans le tréfonds de mon cœur ?» Amen.